RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Monumental, stratosphérique, implacable, on manquerait presque d'expression assez forte pour qualifier la nature de l'exploit réalisé ce dimanche à Oudenaarde par Mathieu Van Der Poel qui, à 29 ans, est entré encore un peu plus dans la légende du sport cycliste en remportant son 5e monument et son 3e Tour des Flandres. Incroyable performance réalisée donc par le coureur néerlandais qui partait pourtant avec une énorme pancarte de favori dans le dos, mais cela ne l'a pas empêché de mener sa course à sa guise en ne commettant aucune erreur et en attaquant quand il le voulait, là où il le voulait. Aujourd'hui dans Grand Plateau, on va évidemment revenir sur cet exploit. Fait-il de Mathieu déjà le plus grand coureur du Ronde de l'histoire et jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il mener les records? On en débattra. Alors on adore Mathieu, il nous régale de par ses exploits, mais à l'image d'un Pogacar ou d'un Vingegaard ou même d'un Evenepoel des grands jours, il est une sorte de tueur de suspense. Hein, les fantastiques du vélo sont-ils en train de tuer l'intérêt des courses en écrasant la concurrence et en ne se mesurant pas les uns aux autres? Bon là, c'est pas de la faute de Van Der Poel, c'est la faute aux gamelles. On en reviendra évidemment sur ce qui s'est passé mercredi dernier dans À travers la Flandre avec plusieurs des favoris du Tour des Flandres qui ont été jetés au sol, ce qui a limité la concurrence. On reviendra donc sur le phénomène de ces chutes collectives. On écoutera notamment Julien Alaphilippe qui a confié à Arnaud Souk que désormais il avait peur des gamelles. Enfin, on s'intéressera à notre monument à nous. Bah oui, c'est la plus belle, c'est la reine des classiques et c'est dimanche prochain Paris-Roubaix qui, vu la météo qui règne sur la France depuis des semaines et qui ne devrait pas s'arranger d'ici le week-end prochain, nous promet un spectacle dantesque. L'enfer se destinera-t-il encore une fois à Mathieu Van Der Poel? Rien ne va plus, faites vos jeux. Et pour répondre à ces multiples questions, débattre, j'ai réuni une belle équipe de forçats de la route, composée de Cyril Guimard, évidemment notre leader en tant que forçat. Salut Cyril!
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Arnaud Souk et Johan Bredov sont également de la partie. Comment ça va les garçons?
Salut les amis, ça va très bien, on a vécu une belle course, donc ça va.
C'était magnifique.
Tu t'es régalé?
Je me suis régalé. Il y avait de la pluie comme tu avais prévu la semaine dernière, donc finalement...
Je suis fort, voilà. J'ai une vraie petite grenouille. Hein.
Ouais. Bravo.
Et pour se mettre en jambes, avant de débattre, rien de mieux qu'un bon petit Tour des Flandres, la classique préférée du peuple flamand qui s'est donc offerte hier à un voisin des Flamands, un franco-néerlandais, oui j'aime bien dire franco, nommé Mathieu Van Der Poel, petit-fils de qui, vous savez, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas mentionné, Mathieu, auteur d'une performance monumentale ce dimanche sur le Ronde van Vlaanderen.
Seul contre tous aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il a étouffé littéralement la concurrence en plantant sa banderille dans les terribles pourcentages du Koppenberg à 45 km de l'arrivée. Personne ne l'a revu. Une heure plus tard, l'arc-en-ciel peut surgir et il va pouvoir lever les bras dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée. C'est lui l'empereur ici de Oudenaarde, l'empereur des Flandres, l'empereur du Rond 2, Mathieu Van Der Poel qui va carrément descendre de son vélo sur la ligne d'arrivée. L'image est saisissante pour l'histoire. Fabuleux Mathieu Van Der Poel qui soulève son vélo et qui le tient à bout de bras. Mathieu Van Der Poel est tout simplement unique, victorieux ici du Ronde 2.
Belle chanson, reprise en cœur par Arnaud qui passe ses week-ends en ce moment et ses dimanches au pays des Flamands. Pas des flamands roses, des vrais flamands, ceux qui sont bons sur les routes et qui nous régalent. Il y avait une ambiance encore de feu.
Oui, bah, je crois que les images télévisées ont parlé d'elles-mêmes, hein, sur le Ronde 2 et notamment on a vu dans le vieux Coirmont. Vraiment, voilà, c'était très très impressionnant de voir ces files de spectateurs. Alors, j'ai fait moi-même la reconnaissance la veille, vous savez, la cyclotouriste en fait du Tour des Flandres et il y avait 15 000 inscrits. Et
tu l'as fait en vélo ?
Je l'ai fait en vélo, absolument, Cyril. Alors, j'ai pas fait la grosse, hein, ouais, j'ai fait celle de 75 km, mais il y avait un monde fou, on était 15 000 sur la route et c'est vrai que un petit peu comme ils ont fait les pros dans le Koppenberg, dans le Taillenberg, etc., il y avait quand même beaucoup de gens qui mettaient pied à terre parce que quand il y a trop de gens qui se suivent, tu peux pas rechausser, donc tu finis à pied.
C'est l'image, hein, d'ailleurs, Johan et Cyril, l'image de ce Tour des Flandres, c'est ce peloton à pied dans le Koppenberg. C'est arrivé par le passé, mais avec un tel nombre, Cyril, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de coureurs cyclistes à pied dans cette ascension terrible, hein, parce que là, c'est difficile de remonter sur le vélo.
Impossible, impossible. Route mouillée, ça patine, c'est impossible.
C'est dingue, hein.
Si, il y a déjà eu, puisque même une année, il y a la voiture de direction de course qui avait roulé sur un vélo.
Ah, c'est pour ça qu'on les interdit d'ailleurs. Il n'y a plus aucun véhicule, mis à part quelques motos quand même qui peuvent.
Oui, mais là c'était le directeur de course.
Ah oui, le directeur de course, t'es obligé de le laisser passer.
T'es obligé de le laisser passer. Oui, ben ça fait partie de la course, ça fait partie de la légende et de l'image de cette course. On le passe dans d'autres épreuves aussi, mais bon, en règle générale, il y a moins de fureur quand les coureurs arrivent dedans.
C'est peut-être la météo aussi qui explique ça, parce que
c'est une certitude,
mais déjà très glissante.
Déjà, il se passe quelque chose de manière générale sur ces courses, particulièrement sur ces flandriennes, c'est que, et c'est pour cette raison d'ailleurs peut-être qu'il y a eu la chute sur À travers la Flandre, c'est que tout le monde essaie de se repositionner, parce qu'on sait que si on tourne une grande route vers une petite route et qu'on prend à l'arrière du peloton, on arrive avec zéro vitesse. Donc déjà, c'est compliqué, et il y a certains coureurs qui sont obligés de descendre et 20 secondes. Déjà, il y en a certains qui sont obligés de descendre en temps normal, mais là, véritablement, il faut comprendre que ça patine, qu'on est sur un boyau de quelques millimètres et que c'est impossible de recaler sa pédale. C'est pas les pavés, la pluie, c'est les pavés, la pluie, plus ces pentes à 20% qui font que ça patine trop.
Et puis, Johan, il y a aussi l'image de ces coureurs avec les chaussures de vélo, évidemment, oui. les cales qui empêchent de courir. Et là,
c'est encore plus une galère. Déjà, qu'ils s'accrochent aux barrières, qu'ils n'arrivent pas à pédaler. Si en plus avec les chaussures de vélo ils doivent courir. Mais pour revenir à la course, il y a aussi un Movistar qui a arrêté avant que Van Der Poel passe. Ça peut peut-être gêner derrière.
Il était en tête de course.
C'est Garcia Cortina en l'occurrence, ouais. Après, il s'est arrêté parce qu'il a patiné, hein, précisément, parce qu'il n'avait pas assez de puissance pour monter. Hein.
Et il y en a que quelques-uns qui ont réussi à s'en sortir, dont Mathieu Van Der Poel, qui a une technique sans doute héritée du cyclocross. Cyril, il sait qu'il faut mettre du poids sur le pneu arrière et je sais que tu es dithyrambique à propos du cyclocross, mais là en l'occurrence, hier, c'était vraiment l'école du cyclocross qui a donné des leçons.
Oui, bah, il faut savoir que tous les ans, il y a un très grand cyclocross avec le Koppenberg. Donc les cyclocrossmen le connaissent très bien, parce que en cyclocross vous faites 6 ou 7 tours, vous le passez au moins 6 fois. C'est vrai qu'il y a une technique pour ne pas glisser, pour ne pas patiner. Il y a un certain coup de pédale, mais quand un coureur fait une faute, eh bien il est obligé de mettre pied à terre. Donc il ne faut pas faire de faute, et pour ça il faut être techniquement au point, avoir la bonne pression sur la pédale pour ne pas patiner, et surtout pousser et tirer pour les points morts, de façon à garder une motricité un peu constante, comme dans le cyclocross lorsque vous êtes dans le sable ou dans de la boue. Donc il faut essayer d'avoir un effort tangentiel sur l'ensemble de la circonférence de pédalage qui soit à peu près harmonieux pour ne pas mettre... comme je dis, si tu frappes la pédale, tu vas patiner. Ouais. Donc il faut que ce soit vraiment un coup de pédale très rond, donc avec un mouvement de cheville aussi qui va permettre ce pédalage très rond. Et Van Der Poel, bien que Van Der Poel, à un moment il est parti sur la droite, il y avait un tout petit dévers, il a décroché de la roue arrière, et à ce moment-là, quand vous faites ça, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer plus fort. C'est-à-dire qu'il faut lever légèrement et remettre derrière. C'est un cyclocross, il fait un cyclocrossman, il le fait d'instinct.
Et il a réussi même en chassant à rester sur le vélo et à reprendre l'adhérence sur la route.
Ils sont trois à être restés sur le vélo, Van Der Poel, Mats Pedersen et Jorgensen. Les trois plus forts, les trois derniers d'ailleurs qui ont gagné sur des classiques belges. C'était les trois plus forts du peloton et c'est les seuls qui sont restés sur le vélo. Et Pedersen était à la limite, hein. il allait un petit peu moins vite, il tombait je pense.
Mais... Ouais. Incroyable, donc c'est là aussi l'une des performances de Mathieu Van Der Poel qui a tout réussi au cours de cette journée. Il m'avait pourtant semblé un peu au cours de la journée, enfin c'est une impression toute personnelle, et j'ai eu la même que certains commentateurs d'Eurosport, donc c'est pour ça, parce que je n'ai pas fait que vous écouter, j'ai écouté aussi la conférence, messieurs, hein, qui est quand même, je veux dire, c'est pas mal.
Moi, à aucun moment j'ai trouvé que...
Non.
Non,
je sais pas.
Je me souviens d'un moment justement où il reste dans un second groupe et il décide, c'était sur l'une des côtes qui n'était pas pavée, où il décide de faire le jump dans le premier groupe, facilité déconcertante. Moi, sincèrement, le seul doute que j'ai eu pour Mathieu Van Der Poel, et il a vite été levé, c'est quand Jorgensen, sur je ne sais plus quel, l'un des premiers monts, saute dans sa roue directement. Mais il a été levé, le doute pour moi, une fois que Jorgensen n'a pas réussi, le mont d'après, à sauter dans la roue de Van Der Poel. Là pour moi c'était terminé. Ouais. Et même si Jorgensen a été le deuxième à passer en haut du Koppenberg.
Koppenberg.
Cyril, ce qu'il y a aussi, ce qui fait peut-être la différence, c'est que non seulement Mathieu est le plus fort, mais c'est qu'en plus, c'est devenu un bon tacticien en matière de course. Au début de sa carrière, c'était un peu un chien fou, il sautait sur tous les coups. Là, hier, il s'est retrouvé un peu esselé. Il y avait plusieurs autres grandes équipes qui étaient à plusieurs représentants. Il n'a pas sauté sur tout le monde, il a attendu, il a regardé. Et alors, si tu es le plus fort dans les jambes et dans la tête, là, ça va devenir très difficile de le battre quand même. Hein.
Ça, c'est vrai, mais bon, c'est vrai, tu l'as signalé, il courait un petit peu. Peut-être pas chien fou, mais il courait à l'instinct, il courait aux pulsions. C'est-à-dire s'il avait envie de, s'il sentait un coup, bon ben il y allait. Et puis il se relevait pas. Si ça revenait, bon ben ça revenait. Si ça revenait pas, et ben éventuellement il allait gagner, ce qui lui est arrivé quand même un certain nombre de fois. Alors bien sûr, ça c'est beau, c'est sympathique, c'est amusant. Ça marche souvent. Parce qu'il avait, il a un tel moteur que on se disait ah ben oui mais finalement il a bien couru, il a couru à l'ancienne, s'il va chercher la gagne derrière. Mais si tu n'as pas le moteur de Van Der Poel, t'es obligé de courir à l'économie et c'est ce que font la plupart des coureurs qui vont faire en sorte que ils n'utilisent que ce qui est nécessaire pour essayer d'aller chercher la gagne. Mais moi, j'avais déjà vu dans la saison de cyclocross cet hiver qu'il avait déjà changé sa façon de courir. En cyclocross, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait. Alors, s'il partait pas très bien, bon, peu importe, il restait tranquille derrière, il revenait. Et après, il faisait une, deux, trois accélérations. J'ai presque envie de dire, il faisait son fractionné. Il s'en allait. Il prenait une minute. Et quand il avait la minute, il laissait revenir dans les deux derniers tours, il laissait revenir à 30 secondes. Alors déjà, pour le spectacle, c'était un peu mieux, parce que sinon, il gagnait avec 3 minutes. La première, il l'a gagné avec 3 minutes. Et à partir de ce moment-là, moi, je l'ai vu à certains moments faire des vrais exercices pendant la course de cyclocross, t'entends. Donc, il était déjà dans une autre forme de réflexion et de style de course. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Un, et on a pu le voir depuis le début de saison, il sort plus comme il faisait, il accompagne les coups, il s'arrange pour ne pas être piégé. Si on prend hier, il a toujours été serein, il a été calme, pas de nervosité. Les accélérations dosées, vraiment dosées. Et en plus, quand il mettait une accélération, parce qu'en fait, il en a mis qu'une, la première qui était dans le vieux Quaremont, il sort bien, là, et ensuite il laisse rentrer. Et là, on peut se poser la question de se dire, ouais. Effectivement, d'habitude...
C'est à ce moment-là, moi, que je me suis dit, est-ce qu'il est aussi en forme qu'il n'y paraît
Il épuise les autres.
Ouais. En fait, il piège tout le monde.
Je suis tombé dans son piège.
Parce que les coureurs se disent, ah putain, et il est peut-être pas si bien que ça.
Ouais, c'est ça.
Il laisse rentrer, il se retrouve à 7 ou 8. Derrière, dans la descente, ça se regroupe. Il insiste. Dans le Pateberg, il se met au niveau des autres. Il n'essaye pas non plus de partir. Et, alors là, où ça a été absolument, c'est le Koppenberg. Parce que le Koppenberg, il est au-dessus techniquement. Il peut faire un écart beaucoup plus important et puis mettre la poignée au fond derrière. Eh bien, non, il laisse Jorgensen à 5-6 secondes. Jorgensen pense qu'il va revenir.
Là aussi, ouais, il l'a aussi laissé espérer.
Mais il a
asphyxié à mort devant lui et boum, d'un seul coup, il le lâche à nouveau.
Et d'un seul coup, on revient dans les ascensions.
Ouais.
Il remet 5 tours de plus au niveau du RPM. Et Jorgensen, il fait même plus dans les 10 premiers. Il finit au fond de la classe. Il a été complètement tué. Ouais. À partir de ce moment-là, la course était facile. Hein. Même quand il remonte la dernière fois le Quaremont, les bons braquets, ouais. Enfin, 90 tours minute. C'était parfait.
Ouais. Alors, on va l'écouter parce que, alors je ne sais pas s'il nous a fait du cinéma. Arnaud nous le dira puisqu'il c'est lui qui l'a interrogé. Mais il nous dit quand même qu'il était cuit, très très cuit. Et sur son visage, on sentait quand même les stigmates de la fatigue. On écoute donc Mathieu Van Der Poel. Évidemment ravi d'entrer encore un peu plus dans la légende de ce Tour des Flandres.
Je suis vraiment cramé. Je pouvais plus rien faire les 10 derniers kilomètres. C'était juste... J'ai presque fermé les yeux pour rentrer. J'étais vraiment, vraiment haut à mon limite. C'était vraiment très dur avec la pluie et les températures aujourd'hui. C'était un des plus dures courses que j'ai fait déjà. Surtout le plus dur ronde que j'ai fait. Je suis très heureux de gagner dans ce maillot. Ma saison, elle est fantastique maintenant.
Ma saison est fantastique, eh oui, champion du monde.
Et tu t'imagines que sa saison, c'est 4 courses hein, pour l'instant, seulement. 4 courses.
Il en a gagné combien, 3?
Il en a gagné 2, il fait 10e de Milan-San Remo.
Il fait gagner Milan-San Remo à son équipier, quand même.
Il a gagné Grand Prix E3, et donc Tour des Flandres, et je ne sais plus quelle est la
catégorie.
Dans Velgem, où il termine 2e, voilà, derrière Pedersen.
Ouais, battu par Pedersen.
Non, mais c'est vrai que moi, je trouvais quand même qu'il était sur la fin. J'ai pas eu l'impression que dans le dernier kilomètre, il ait pris le temps de vraiment savourer, parce que au dernier moment il s'est dit tiens je vais aller lever le vélo sur la ligne, et il a quand même perdu beaucoup de temps. Il a perdu une quarantaine de secondes sur les 10 derniers kilomètres, et c'est vrai que bon, on l'a pas entendu là dans le book qui a été diffusé, mais il savait qu'il avait une avance suffisante sur ses poursuivants, mais en même temps voilà, il avait vraiment conscience quand même que les 10 derniers kilomètres étaient très difficiles, et il savait qu'il était en train de perdre un petit peu du temps. Il savait qu'il avait de la marge, mais il aurait peut-être pas fallu j'en sais rien 30 kilomètres de plus, remarque peut-être pas non plus pour les poursuivants, mais non il était sincèrement crevé. Et juste pour avoir vu les coureurs à l'arrivée, excuse-moi Cyril, je termine, juste pour avoir vu les coureurs à l'arrivée, pour avoir vu Stefan Kung par exemple, pour avoir vu Julien Alaphilippe, ils étaient frigorifiés. Mathieu Van Der Poel lui aussi était frigorifié, enfin vraiment ils avaient la mine déconfite quoi. Il m'a dit Van Der Poel, moi j'ai pas ressenti ça depuis le Yorkshire quand il fait sa fringale en 2019 au Mondiaux.
Cyril,
la roguette. Oui, non, c'est bien son discours et
tu crois pas, toi.
Et je comprends qu'il puisse
façon,
être.
Tu crois jamais les coureurs cyclistes.
À la limite, il faut quand même se dire une chose, c'est que les coureurs qu'il a lâchés étaient plus mal que lui et souffraient plus que lui. S'il avait regardé la tête de tous les poursuivants qui arrivaient, ils n'étaient pas mieux que lui, parce qu'il perd en fait 30 secondes dans le dernier kilomètre, parce que là, il se laisse aller. Et depuis le Koppenberg, depuis le Pateberg, en fait, il a perdu 25 ou 30 secondes, mais il était complètement gestion. Il savait que l'écart était suffisamment important et que ça ne servait à rien de mettre la poignée au fond. Mais quand le coureur qui gagne finit dans l'état où il est, je vous dis pas, et Arnaud tu l'as souligné, la gueule des mecs derrière quoi.
Ouais, on les a entendus. Moi je me rappelle, j'ai écouté hier soir l'interview que tu as faite de Julien Alaphilippe, lui aussi cramé.
Ah il était oui complètement cramé, mais voilà, bon il y a des choses, on va dire que Julien c'était pas hier, malheureusement il le savait, il avait expliqué qu'il y aurait pas de miracle, et il y a une raison voilà qui explique notamment que hier sur les pavés il a eu très mal. Il a des relativement bonnes jambes Julien, mais il a un souci qui l'empêche d'avancer un petit peu plus, en tout cas sur des courses pavées. Moi je suis persuadé qu'il va faire son stage en Andorre, là il va avoir un long stage en Andorre pour préparer le Giro. Je suis persuadé que sur le Giro il sera performant.
Très bien, ah bah écoute, que les dieux du cyclisme t'entendent mon cher Arnaud.
Enfin performant, je te dis pas qu'il va gagner le Giro évidemment, mais je pense qu'il sera en mesure d'aller chercher une étape.
Les dieux du cyclisme français hein.
Oui, les dieux français, oui, ah bah pas les dieux slovènes évidemment, les dieux slovènes ils pensent surtout à une victoire de Poggi. Alors pour revenir à Mathieu Van Der Poel, quand même numéro exceptionnel, car plus de 40 km d'échappée en solitaire, c'est le Tour des Flandres, le record a été battu sur ce Tour des Flandres, tout cela alors qu'il avait quand même une énorme pancarte de favori dans le dos.
Ça c'est encore plus fort.
Je trouve ça encore plus fort.
Même si, pardon, on n'a pas souligné, excuse-moi de te couper Christophe, mais je trouve qu'on n'a pas souligné le manque d'adversité quand même.
On va y revenir un petit peu plus tard, évidemment, mais avec le manque d'adversité, il bat quand même le record.
Voilà, absolument. Encore fallait-il le faire. Hein. Et d'ailleurs, il l'a bien répété hier à la fin de cette fameuse interview. Il a dit oui, mais j'étais favori, mais la course, il faut quand même la faire. Elle est difficile, quoi. Et donc, c'est tout à l'honneur de Mathieu Van Der Poel. Mais c'est vrai que ça manquait, je trouve, quand même d'adversité. Et même si les autres équipes ont tenté de l'attaquer, c'était un petit peu désordonné, j'ai trouvé. Et souvenez-vous qu'en plus, il a perdu un moment Krav-Andersen et Dillier, qui étaient à l'arrière du peloton, dans un moment qui aurait pu être décisif. Bon. Il a eu beau féliciter ses coéquipiers, il avait besoin de personne hier.
C'est vrai, mais il a pu compter quand même sur Axel Laurens, qui est revenu d'abord sur Abrahamsen, il me semble, Axel Laurens, puis surtout, et on va en parler...
Son parce premier Tour des Flandres, hein, pour le jeune Français.
Premier Tour des Flandres, et surtout, et on va en parler dans un instant, avec, parce qu'on va revenir sur Mats Pedersen, mais sur Vermeersch, qui a sauté dans la bonne roue, celle de Mats Pedersen, qui s'est même permis de jouer avec lui, lui a passé des relais, vas-y, va rouler, fatigue-toi. De toute façon, comme ça, personne ne roule derrière chez nous, et voilà, on va fatiguer tout le monde. Donc voilà, il n'était pas non plus tout seul, Mathieu Van Der Poel. Et puis Axel Laurens l'a dit, Il reçoit pas d'ordre, Mathieu Van Der Poel. Il fait sa course tout seul, il sait ce qu'il doit faire, c'est le champion, c'est le roi. Arnaud le disait dans son commentaire, c'est l'empereur. Voilà, il décide de ce qu'il va faire, il sait qu'il est au-dessus de tout le monde et c'est ce qu'il a fait brillamment. Mais il a pu quand même compter sur quelques équipiers.
Équipiers, et donc Vermeersch, tu le rappelais. Alors, ses adversaires ont-ils bien couru, Cyril? Tu as été très, très critique à l'égard de Mats Pedersen hier pendant le direct. Ça a occasionné une petite altercation, enfin, en tout bien tout honneur évidemment, entre Arnaud et Cyril qui m'a rappelé le Tour de France.
Ils sont pas d'accord.
Ah non, ils sont jamais d'accord. Tu sais, c'est
ça. Ça faisait trois semaines là.
Vous
étiez trop d'accord. Donc Cyril, toi tu disais que Mats Pedersen avait fait n'importe quoi justement en tentant cette attaque, avec en plus un équipier de Van Der Poel dans la roue qui faisait semblant de lui passer des relais. Et Arnaud disait,
il l'encourageait.
Et Arnaud disait,
il lui donnait de la motivation.
Et Arnaud disait au contraire que s'il n'y avait pas des Pedersen, se serait ennuyé jusqu'au
bout,
quelques kilomètres de l'arrivée. Alors, avec un peu de recul, est-ce que vous avez toujours les mêmes positions, les garçons?
Non, mais moi je comprends ce que veut dire Cyril, mais après on n'est pas dans la tête et encore moins dans les jambes du coureur qui a gagné la semaine dernière sur une course très difficile Gent-Wevelgem, qui a chuté sur à travers la Flandre et qui peut-être que je me trompe, mais moi je vois les choses comme ça. Si vraiment hier il se sent gagné, effectivement il fait pas ce qu'il a fait. Peut-être que voilà, c'était son va-tou, il s'est dit on sait jamais, voilà, sur un malentendu ça passe, imagine.
On était loin de l'arrivée quand même.
Sur un malentendu ça peut passer, peut-être qu'il s'est dit ça. Je sais pas, je suis pas dans sa tête et j'ai pas pu le voir après la course.
Il y a pas de malentendu quand t'as Van Der Poel.
Mais Cyril, ce que je veux dire c'est que au moins ça a eu le mérite de secouer le cocotier et on peut pas s'en plaindre alors qu'on s'est ennuyé pendant des années sur le vélo. Bon, mais Van Der Poel, il l'aurait secoué tout seul, le cocotier. Mais au moins, on a eu un petit peu d'animation avant. Moi, je trouve pas qu'il y a non plus à lui jeter la pierre. C'est pas comme si Van Der Poel, par exemple, avait attaqué à 150 bornes de l'arrivée et fait une attaque suicide.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il se suicide alors que la semaine d'avant, justement, il bat Van Der Poel, mais il le bat pas en tentant des trucs.
Mais là, il était diminué quand même, Pedersen. Ouais, deux jours avant, il était même pas censé s'aligner.
C'est ça, ça lui
moi, je pense que ça a joué.
Il est tombé sur la tête, en fait, Cyril, dans cette chute dans à travers la Flandre, Mats.
Oui, une chute, c'est jamais un avantage. Il se teste à 110, 112 km de l'arrivée. Il fait une ou deux accélérations. Là, il a fait le check-up, il sait qu'il est bien. Ensuite, ce qui fait partir à 96 km de l'arrivée avec un équipier de Van Der Poel dans la roue et de faire quand même la bagatelle de 45 ou 50 km avec 15 ou 25 secondes d'avance, que vous le fassiez avec un coureur de second plan, on va même pas rouler, à la limite on leur a laissé prendre une minute. Mais attendez, quand vous voyez le final qu'il fait, parce que il finit devant. Il passe troisième en haut du Koppenberg. Derrière, on l'a largué sur la fatigue sur le Pateberg. Mais voilà, le seul type qui pouvait mettre en danger Van Der Poel, c'était lui. Et personne d'autre. Mais il fallait qu'il ne court pas comme ça. Alors, mais moi, je suis le patron de l'équipe. Attends, s'il te plaît. Si je suis le patron de l'équipe, moi, je peux vous dire que j'appelle le manager et j'appelle le DS. Je sais pas s'il y en a pas. Mais attends.
Je
te rends pas compte, le Tour des Flandres. Tu fais perdre le Tour des Flandres à un coureur. Ou au pire, deux.
Cyril.
Mais t'as pas le droit de le faire perdre en le laissant mourir devant, c'est pas vrai.
Cyril, il a réagi, Mats Pedersen. Alors il a pas parlé aux journalistes, mais il a réagi sur ses réseaux sociaux. Il a dit que c'était pas le round 2 qu'il espérait, que son corps était pas à 100%, qu'il avait pas fait. Il a reconnu qu'il a pas fait la course la plus intelligente de sa carrière, mais qu'il espérait malgré tout un résultat différent. J'aurais dû retourner dans le peloton. C'est facile à dire maintenant. On est tous des humains, on fait parfois des erreurs. Et de finir, Cyril, s'il te plaît, est-ce que ça aurait changé mon résultat? Je ne pense pas. Voilà, il termine quand même avec 2 minutes 40.
Oui, bah, attends, il peut pas. Attends, mais est-ce qu'il peut dire le contraire?
Mais est-ce qu'on a le droit de le croire?
Est-ce qu'on a le droit de le croire? Non, mais attends, on ne peut pas le croire. Ou alors, faut pas avoir été coureur.
Oui, mais moi, je. Oui, bah alors d'accord. Hein, si tu en reviens tout le temps là, oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion, Cyril.
Bon, bref.
Je peux te dire, je suis le taulier, le directeur sportif, il est convoqué.
Ok, Mats Pedersen a donc fait une erreur et surtout sa direction sportive.
Il y a des oreillettes aussi. Hein.
Cyril, il y avait moyen de battre, il y avait un moyen de battre Van der Poel hier. Qu'est-ce que, si tu avais été DS ou manager d'une équipe cyclisme, par exemple de la Groupama FDJ, qu'est-ce que tu aurais pu sortir comme tactique que n'ont pas fait les adversaires de Van der Poel?
Si on prend Groupama, ils avaient un coureur qui pouvait venir dans le final. Malheureusement, il a été victime d'une chute, Stephen Kung. Donc la course ne se faisait plus. Mais si je suis le directeur de Mats Pedersen, je le fais courir comme un suceur de roue. Et si il court sans donner un coup de pédale inutile, qu'il est toujours bien dans les abris avec la puissance de l'équipe qu'il a. Il est à 5 ou 6 secondes de Van der Poel en haut du Koppenberg. S'il n'a pas fait son footing, je suis pas sûr qu'il n'est pas devant Van der Poel. Regardez les images.
Oui, certes, mais
il est troisième en haut du Koppenberg en ayant fait 50 bornes devant.
Oui, mais il reste très loin de Mathieu Van der Poel qui est... On parlait la semaine dernière de Pedersen et de Van der Poel et tu nous interrogeais justement sur comment classer Pedersen avec le reste. Pedersen est un immense champion, Van der Poel est une légende. Il y a une différence de niveau déjà entre les deux qui est énorme. Pedersen aurait pu faire la course qu'il voulait, je pense qu'il n'aurait jamais suivi Mathieu Van der Poel, c'était impossible. Alors oui, il s'est peut-être cramé avant. Mais il le savait de toute façon qu'il n'avait pas les jambes. S'il le fait, c'est qu'il le sait que de toute façon il n'y arrivera pas et que Van der Poel est au-dessus. Et la seule manière de battre Van der Poel, c'était un fantasme, c'était une coalition entre toutes les équipes du peloton.
Mais ça n'arrive jamais.
Mais ça ne peut pas arriver. Donc c'est impossible.
Non, mais ça, même dans les églises, ça n'existe pas.
Exactement.
Ça.
Donc en fait, Mathieu Van der Poel, à moins d'une erreur de sa part, devait gagner le Tour des Flandres. Il n'a fait aucune erreur, on en a parlé, sa tactique a été parfaite. Et il n'y avait aucun moyen de le battre ce week-end.
Si, il fallait courir autrement.
Ouais. La preuve. Arrête Cyril, là c'est de la mauvaise foi. Cyril, tu fais un cas de Pedersen qui n'en est pas un en fait. C'est terrible.
Bon écoutez, si vous connaissez mieux le vélo que moi, il faut le dire.
Il avait quand même
moi je ferme le Scoopy et puis...
Je vais
regarder l'étape du Tour du Pays Basque.
T'as jamais gagné le Tour des Flandres quand même, ni toi ni un de tes coureurs Cyril.
Durand
quand même plusieurs fois.
Durand, quand il gagne, c'est vrai.
Dis donc, ça je l'avais complètement oublié que c'était un de tes coureurs à l'époque. Troisième et dernier Français à avoir remporté le Tour des Flandres, c'était en 92 et t'étais son patron, évidemment. Mais est-ce que aujourd'hui un mec aurait pu faire ça en partant de si loin comme l'avait fait Dudu en 92 ou on n'est plus du tout dans le même cyclisme, Cyril?
Non, là on n'est plus. D'abord, il n'y avait pas les oreillettes. Oui. Donc ils se sont retrouvés avec 20 minutes d'avance ou presque. Ils se sont tous regardés, qui roule, qui roule pas. D'autant qu'avec Wegmüller qui était là aussi, il y avait deux bêtes à rouler devant. Ils sont mis le nez contre la porte. Ça arrive une fois de temps en temps. Mais Dudu, il sentait bien ces coups-là. Hein.
Ouais.
C'est pas la seule qu'il a gagnée en partant au départ. Hein.
C'est
la première qu'il a gagnée au départ, alors qu'il était néo pro, c'était Isberg.
Très bien. Alors, Mathieu Van der Poel qui remporte là son cinquième monument. Par rapport à Pogacar, la bagarre continue évidemment.
Égalité.
En termes
Parfait.
De monument. Et son troisième Tour des Flandres, là, il est devant Poggi. Un exploit qui lui permet d'entrer dans un club très fermé.
Celui des recordmen, tout simplement. Des victoires sur le rondeux. Ils sont cinq autres à avoir gagné trois fois. Hakelbusch dans les années 40. Fiorenzo Magni entre 49 et 51. Eric Lehmann début des années 70. Johan Museu dans les années 90 et plus récemment Tom Boonen et Fabian Cancellara qui se tiraient la bourre dans les années 2000-2010. Van der Poel qui rejoint donc ses légendes et surtout il est plutôt en avance au niveau de l'âge. Je regardais un petit peu, Cancellara il a 33 ans au moment où il remporte son troisième Tour des Flandres. Boonen 32 ans, Museu 32 ans. On va en rester là parce qu'après c'était un autre cyclisme. Mais voilà, à 29 ans, Mathieu Van der Poel qui remporte donc son cinquième monument. On est très loin des 19 de Dimerckx.
évidemment. Ça sera quasiment impossible, hein, mais il en a disputé 36 de plus. Mais 5 monuments, je le disais, c'est autant que Bernard Hinault, autant que Paolo Bettini, autant que Philippe Gilbert et surtout autant que Tadej Pogacar. Il est là, son vrai rival. Et il n'était pas là ce week-end. C'est ça le problème.
Il n'était pas là, effectivement. Et en plus, alors non seulement il a gagné 5, et il a des stats incroyables dans les top 10. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est complètement dingue.
Et il va en gagner un 6e dimanche.
Ah, bah ça, on en parlera tout à l'heure.
Parce qu'on en parle avec
Arnaud. Ne déflore pas le fil conducteur, s'il te plaît, il nous reste encore quelques minutes
ah oui.
À passer
ensemble. On se dépêche, là, parce que ça fait longtemps déjà qu'on est ensemble.
Il a envie de partir, Arnaud.
Il a envie de rejoindre
une
émission de qualité, si tu veux. Il veut quitter les pulls à sueur pour aller avec les étoiles. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il est comme ça, Arnaud. On l'aime bien, mais il est un peu, tu vois, un peu trop dans.
Tu vas me faire passer pour ce que je ne suis pas.
Business.
Tiens, le ratio de top 10, juste 94% de top 10 pour Mathieu Van Der Poel. C'est immense. 16 monuments. 15 fois dans le top 10 et le seul top 10 qu'il a loupé, c'était en 2020 Milan-San Remo, il fait 13e. Bon, bref.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà le considérer comme le plus grand coureur du Tour des Flandres, Cyril, Mathieu Van Der Poel, sachant qu'il est déjà dans le club des recordman et qu'il n'a que 29 ans?
Oui, on peut le considérer dans la mesure où quand il n'a pas gagné, il faisait 2.
Ouais.
Sur le Tour des Flandres.
Alors que les autres, c'est plus
c'était plus aléatoire, ouais, plus on aléatoire. Va dire.
Non, mais ça pire place, surtout c'est quatrième en 6 participations, c'est hallucinant.
Oui, mais quand il fait quatrième, il chute.
Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant.
C'est hallucinant.
C'est du niveau de Rafael Nadal à Roland-Garros, en fait. Quoi. C'est pareil. Ouais. Si on fait,
Et puis alors non seulement il est le plus grand coureur du monde, mais en plus, il vient d'enterrer à la fois son père et son grand-père. Hein, parce que là aussi, il les a largués en termes de palmarès. Et non, mais c'est vrai. Je me rappelle du petit phénomène.
Alors, son père, oui, il l'a largué. Son grand-père, il y a quand même.
Tu crois qu'il y a encore.
Non, mais après, c'était peut-être pas les mêmes. Les mêmes époques, non, enfin c'est certainement pas les mêmes époques, mais il avait quand même un nombre de victoires, Raymond Poulidor, qui était juste hallucinant. Il a gagné la Vuelta, je sais plus combien c'est son nombre de victoires en professionnel, mais je crois pas dire
donc
bêtises.
Donc tu crois qu'il a pas encore dépassé le grand-père?
C'est trop dur à dire. Il me faudrait 50 ans de plus, Christophe, et là j'ai pas du tout envie de les avoir.
Non, mais déjà Raymond faisait pas de cyclocross, donc il peut. Là, il y a pas match.
Mais il faisait beaucoup.
Comme disait Raymond, beaucoup de place. Oui, comme disait Raymond Poulidor, beaucoup de deuxième place et quelques belles victoires, ça finit par faire un très beau palmarès.
Ouais, bien sûr, bien sûr. En tout cas, bah voilà une belle famille de cyclistes. On adore Mathieu Van Der Poel, comme on
bah
adore.
Bah oui, il est français.
Oui, mais on adore Pogacar aussi. Moi, j'adore Pogacar.
Ouais, mais il est pas français.
Vingegaard, on l'aime un peu moins, mais on l'aime quand même parce qu'on aime les grands
mais
champions.
Mais il est pas français.
Ah non, il est pas du tout français. Mais il faut quand même bien avouer, messieurs, que ce sont des tueurs de suspense, ces gars-là. Quand ils ne sont pas opposés l'un à l'autre ou l'un aux autres, ils nous écrasent les courses. C'est-à-dire qu'une heure ou deux heures avant l'arrivée, on sait qui va gagner. Quoi, hein.
Ouais, c'est ça. Bon, on le disait avec la pancarte, ils ont tous la pancarte. Hein. C'est tous les favoris sont là, grands favoris quand même à chaque fois.
Moi, je trouve quand même que sur Van Der Poel, c'est moins vrai.
Bah, ça dépend qui est là, en fait, face à lui.
Oui, parce que dans Milan-San Remo, il n'a pas gagné.
Milan-San Remo, il ne gagne pas. Gant Wevelgem, la semaine dernière, il se fait battre à la régulière au sprint. Et je suis désolé, mais encore une fois, j'y reviens, mais si Wout Van Aert avait été là, je pense que ça aurait été différent. Je ne dis pas que Wout Van Aert aurait gagné, je dis juste que ça aurait été différent dans l'adversité. Là où je trouve que Pogacar et Vingegaard, pour le coup, eux, c'est quand ils décident de partir, merci, au revoir. Tu peux t'appeler Landa ou Ayuso, ou qui tu veux. Tu prends tes 30 secondes ou ta minute et puis basta. Je suis pas sûr que Van Aert aurait été
même cette année, cette saison.
Ah mais moi je pense qu'il était là, il était dans une très grande forme, oui. Quand je vois le numéro qu'il fait notamment sur le Grand Prix E3 où il tombe et il réussit quasiment à revenir sur Van Der Poel avant de finalement exploser en vol alors qu'il a quand même
mais c'est ton amour pour
non
Van Aert,
mais c'est pas ça. Vous négligez le champion, mais c'est pas grave, hein. Non mais
alors je suis d'accord avec toi que c'est
non, mais,
franchement c'était un crève-cœur de ne pas voir vous au départ de ce Tour des Flandres. C'est Cyril qui m'a prévenu mercredi, qui m'appelle, il me dit, est-ce que tu regardes à travers la flanche? J'avais complètement oublié. Il me dit, regarde, il vient se passer un truc terrible. Et là, je mets le replay et j'avais le moral dans les chaussettes, Cyril. T'aurais pu t'abstenir de m'appeler quand même, tu vois, ça m'aurait pas gâché la journée. Non, mais c'est vrai, on s'attendait à un round incroyable avec toutes les grandes stars, avec Van Aert qui venait de s'entraîner pendant des semaines sur le volcan aux Canaries. On a Mats Pedersen qui était là et qui l'avait battu. Franchement, ça devait être la course du printemps, comme celle de dimanche prochain. Et là, ça a quand même cassé un peu le game, hein, Cyril, il faut bien le dire.
Oui, c'était préférable de l'avoir au départ, ne serait-ce que pour nous éviter de répéter qu'il n'y avait qu'un seul favori avec une grande pancarte dans le dos. Et puis, comme on fait dans pratiquement tous les sports, les gens les plus importants au départ, c'est ceux qui n'y sont pas. Mais cette année, Van Aert est en dessous des autres années et en dessous de Van Der Poel. On va prendre le Tour des Flandres. Van Der Poel, il crève pas, il tombe pas. Là, quand Van Aert se met sur le toit, deux fois, il avait déjà été sorti par Van Der Poel dans les monts. Et il fait une faute parce qu'il est pas dedans. Et il en fait une deuxième après qui va amener la chute. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais moi, je ne pense pas que sur le Tour des Flandres, Wout van Aert aurait été un grand adversaire. C'était intéressant de ouais, voir la course ouais. avec Van Aert. Et comment Van Der Poel s'en serait séparé ou l'aurait éjecté. Mais non, même dans les cyclocross, il n'était pas dedans. Je pense qu'il a raté sa préparation hivernale.
D'aller aux Canaries, s'entraîner sur le volcan en hypoxie plutôt que de s'entraîner.
Il l'a déjà fait, si on veut, mais... Vous savez, quand on a des formats qui marchent, si on veut les modifier, il faut le faire par toute petite touche. Mmh. Quand d'un seul coup, vous remettez en cause toutes vos... là, il y a un moment, il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors, il y a peut-être d'autres problèmes que l'on ne connaît pas. Hein, parce que pour être au top, il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. On ne sait pas s'il n'a pas d'autres soucis en dehors.
Enfin, vous me parlez quand même d'un garçon qui a terminé 3 classiques et qui a terminé à chaque fois sur le podium cette saison, qui a chuté sur à travers la Flandre.
Arnaud, je veux bien que tu prennes le contre-pied.
Mais je prends pas le contre-pied. Je te dis juste. Il a raté sa préparation.
Il fait partie des 4 grands.
Ah bon?
Et cette année, il est pas dedans.
J'ai pas l'impression quand je vous écoute.
Bah si, mais justement, c'est là où est la frustration. C'est qu'il fait partie de cette classe-là, de cette planète-là, et c'est pour ça qu'on est triste de ne pas l'avoir vu là. Mais c'est vrai que cette saison, il est quand même en dessous de Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel qui a dû le laminer lors du cyclocross. Je pense qu'il a pris un petit coup sur la carafe quand même, Wout van Aert. Et il voit qu'il est en dessous. Au niveau des monuments, on en a parlé, il en a gagné qu'un. Van Der Poel en est à 5. Je pense qu'il a un petit complexe d'infériorité qui fait qu'il est en train de lâcher petit à petit sur Mathieu Van Der Poel. Puis il y a l'âge qui passe, évidemment. Mais moi, je pense que, comme Cyril, je pense que même s'il avait été là, Wout van Aert, l'adversité aurait certainement été plus forte, la course peut-être pas la même, mais je pense que ça n'aura rien changé et que Mathieu Van Der Poel se serait imposé avec plusieurs secondes d'avance, plusieurs dizaines de secondes d'avance sur Van Aert.
Nous ne le saurons
merci
jamais.
Merci, Johan.
Nous ne... il est battu à 2-1.
Merci, Christophe, de me soutenir. Hein. Je le retiens. Mais en plus, quand on me dit ça, moi, je trouve ça hyper péremptoire parce que, évidemment, que la stratégie aurait été éminemment différente si Van Aert avait été là. Donc, Matteo Jorgensen et Tijs Benoot et le reste de l'équipe n'auraient pas du tout fait la même chose. Donc, je trouve que c'est impossible de dire, il aurait eu des dizaines de secondes d'avance. Enfin, moi, je trouve ça hyper péremptoire. Je trouve juste
que... Et Pedersen n'aurait pas couru comme il a couru, peut-être, si Van Aert était là.
Certes.
Bref,
on peut arriver à faire tomber des chaînes.
Ouais. En l'absence donc de Wout van Aert et du suicide de Pedersen annoncé par Cyril, c'est donc un coureur italien d'une formation française qui a terminé deuxième. Fantastique exploit donc pour l'équipe d'Emmanuel Hubert, Arkea BNB. Mozzato, qui est le plus français des coureurs italiens, il est passé pro en 2020 chez Jérôme Pinot. Il est toujours resté dans les équipes françaises, BNB puis Arkea. Pour un coureur comme lui, terminer deuxième du round, ça équivaut, Cyril, à une victoire, même à une très grande victoire, non?
Ben, je trouve que c'est une performance exceptionnelle qu'il a réalisée, parce que si on regarde son palmarès en amont, il a pas de palmarès par rapport à un coureur qui vient finir sur le podium d'un Tour des Flandres. Mais c'est peut-être une révélation pour lui et je pense qu'il est tout simplement en train de prendre le leadership dans son équipe qui normalement aurait dû échoir à Arnaud Démare, mais finalement c'est lui qui est en train de s'imposer comme le chef de file de cette équipe.
Voilà, Luca Mozzato qui fera l'objet du portrait de la semaine.
Hein, eh oui, tout
Johan,
à fait.
Exactement, que vous pourrez retrouver également. Autre podcast qu'on vous propose depuis quelques semaines. En revanche, pour les Français, c'est la soupe à la grimace. Un seul tricolore dans le top 50, c'est Valentin Madouas qui termine 16e. Ce n'est pas ce qu'il espérait. Il disait venir pour la gagne. On en est très loin. Que dire de Julien qui lui se classe 70e. On l'a pourtant vu à un moment de la course, mais pas bien longtemps. Tu l'as croisé à l'arrivée, tu en parlais tout à l'heure. Arnaud, il semblait frigorifié, un peu dépité. Et tu nous disais de manière un peu anecdotique, enfin pas anecdotique,
non,
mais de manière
sibylline,
voilà, enfin mystérieuse, qu'il avait un
il se ressent dans sa chair encore d'une chute qu'il a subie sur l'Estrada Bianche, et malgré tout il court, et hier c'était compliqué pour lui.
Et Julien n'est pas le seul Soudal à s'être raté, le premier de l'ancien Wolfpack, hein, il n'a plus que le nom de loup, c'est Lampard qui se classe 18e. Soudal n'est plus une équipe de classique, il faut s'y faire. Alors Julien, que tu as rencontré à la veille du round et qui s'est longuement confié sur son état d'esprit. Arnaud, il a expliqué qu'il ne voulait pas faire le Tour de France, de toute manière. Il ne ferait pas le Tour de France cette année, même si le feu vert avait réouvert la porte. Il s'est montré quand même agacé par la sortie justement de son patron, non pas le concernant lui, mais concernant Marion Rousse.
Mais quand même le concernant un petit peu lui aussi. Quand il dit « je m'en fous », c'est une manière de dire voilà.
Et puis il s'est exprimé concernant ses chutes à répétition. Il l'a dit, on va l'entendre, il a désormais la trouille sur certaines courses après ces nombreuses chutes, dont celle qu'il avait jetée à terre lors de Liège-Bastogne-Liège, était en 2022. On l'écoute.
Peur, c'est un grand mot, mais oui, moi j'ai beaucoup plus d'appréhension qu'avant. Mais pour en revenir à mercredi, c'était terrible. En fait, je suis pas passé loin. J'ai fait un peu d'équilibre pour pas tomber parce que j'étais complètement à gauche. Je voulais remonter Paul Magnier pour le Canary Berg. Et ouais, juste le bruit, en fait, ça me fout des frissons juste d'en parler parce que ouais, je suis assez tombé ces dernières années. Je sais ce que c'est, et à cette vitesse. Tu sais ce que les mecs qui sont par terre, par quoi ils vont passer, quoi. Donc ça refroidit. Je leur souhaite un bon rétablissement. J'ai déjà fait un message à Wout, mais il y a d'autres coureurs. Et ouais, c'est un sport cruel parce que beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, une chute comme ça, même loin de l'arrivée, bah voilà, tout s'effondre.
Tout s'effondre, nous dit Julien. C'est la première fois que je l'entends s'exprimer autour de ses gamelles. Alors il l'avoue.
Il l'avait déjà dit, hein, qu'il avait de l'appréhension, mais c'est vrai que bon, enfin, ouais, je vais pas revenir sur cette interview, mais il s'est livré comme rarement il se livre. Mais je crois qu'il avait besoin de parler. Et même son entourage a été un petit peu surpris qu'il se livre à ce point-là, et ça a dû lui faire du bien.
Ça lui a fait du bien sans doute, parce que bon, il a pas trop le moral quand même.
Non, il le disait lui-même, hein, dans cette interview qui a duré un quart d'heure, qui au départ nous était accordé pour 5 minutes, qui a finalement duré un quart d'heure. Il disait bah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de réalité dans le fait de trouver qu'il est un petit peu démotivé, quoi.
Ouais. Voilà, Julien Alaphilippe un peu démotivé et qui donc s'exprime à propos de ces chutes collectives qui vraiment nous surprennent, pas nous surprennent, mais nous abattent à chaque fois, nous choquent semaine après semaine, ces chutes collectives qui sont sans doute plus nombreuses qu'avant. On en parlait hier pendant le direct avec Cyril. Les raisons, elles sont nombreuses. Arnaud, tu as également rencontré Valentin Madouas avant le week-end. Comment explique-t-il cette recrudescence de gamelles ? Sa réponse.
C'est un manque de pas de chance, tout simplement. Chaque année, on passe toujours au même endroit. Il n'y a pas tout le temps des chutes, mais c'est autant tendu que ce soit cette année, l'année d'avant. J'ai regardé sur le compteur, je crois qu'on est la chute, elle a lieu à 85 km/h, un truc comme ça. Donc oui, c'est très très violent, mais chaque année, on passe là. Chaque année, ça passe limite, mais ça passe. Et voilà, il suffit d'une année où t'as un enchaînement de chutes comme cette année. L'année prochaine, ça se trouve, il n'y aura aucune chute. C'est un mélange de plein de choses. Le peloton, il s'est rajeuni. Il y a une pression qui est très forte sur les coureurs, ce qui est normal parce que t'as une attente qui est très élevée avec les équipes, je pense, qui se professionnalisent à bloc. Il y a un staff qui est beaucoup plus présent, donc c'est un mélange de plein de choses comme ça. Ouais. Oui, on y pense. Après, l'objectif, c'est de faire abstraction à certains moments. C'est des courses où on sait qu'il y a un risque très très important et il faut essayer d'y passer à travers. Hein.
Valentin Madouas, donc 16e de ce Tour des Flandres sur ces gamelles. Alors les raisons, il les a évoquées, un matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus rapide. Cyril le dit régulièrement, les oreillettes et la perte de concentration des coureurs pendant ces courses, des enjeux de plus en plus importants, des jeunes coureurs qui n'ont peur de rien et qui de temps en temps sont un peu intrépides, des organisateurs aussi qui ne semblent pas vouloir changer. Hein, sur à travers la Flandre, les coureurs ont emprunté une portion de route très dangereuse, rapide, en faux plat descendant, et au bout de laquelle il fallait virer pour attaquer le pied du Canaryberg. Les organisateurs du Ronde ont banni cette portion de route de leur course, mais pas à travers la Flandre. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur et une volonté, enfin un manque d'ouverture d'esprit ou des yeux des organisateurs? Cyril, tu le dis aussi régulièrement, il y a aussi ces arrivées en virage dessinées par les organisateurs. Est-ce qu'ils ont bien pris conscience que ces courses font du mal au cyclisme?
Je n'en suis pas certain. Chacun voyant midi à sa porte et pas obligatoirement à la porte du voisin. Chaque organisateur, il s'occupe de sa course et il ne veut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et puis, il a aussi d'autres contraintes tout autour qui ne sont pas obligatoirement très simples. Il y a un certain nombre de personnes dont je fais partie, on va dire, des lanceurs d'alerte où on dit les choses. Alors, peut-être pas de façon diplomatique, mais bon... à tel point d'ailleurs que c'est Champ de Beaumerle, t'auras une belle cage, où les chiens aboient, la caravane passe. Et ça, ce sont des expressions d'élus. Hein. Donc, quand vous parlez ne serait-ce que des oreillettes, et quand vous écoutez Benoît qui dit il m'a demandé d'accélérer, en parlant de route. Bon, s'il demande d'accélérer, ça veut dire qu'il n'a pas les deux mains sur le guidon. Il est à l'oreillette. Donc, bon, je connais d'autres coureurs qui, malheureusement, sont morts, eux, pour des raisons d'oreillette et de communication. Mais ça, faut surtout pas en parler. On sait très bien qu'à partir du moment où on vous parle, on capte votre attention.
Cyril, on l'a évoqué. Alors, on va pas revenir sur le débat des oreillettes. Là, je te parlais surtout des oreillettes, parce que ça, on l'a déjà évoqué 100 000 fois. Je te parlais de cette responsabilité des organisateurs dans la construction, dans le tracé de la course. C'est ce qu'il y a. Alors, on sait, on peut pas sécuriser évidemment 200 km, 250 km, encore moins. On peut pas mettre des matelas à chaque virage, mais on peut quand même essayer de réduire quelque peu les endroits les plus dangereux. Non, c'est pas possible, ça ?
Si, ce serait possible, mais encore faudrait-il écouter les gens qu'on parle.
Alors,
moi, je connais un ancien coureur qui a été pris dans une commission justement pour la sécurité. Au bout d'un an et demi, il est parti en disant « je ne sers à rien ».
Ouais. Arnaud, tu veux l'ajouter ?
Ce coureur, vous le connaissez. Oui, vous le connaissez très bien. C'était un pro. Hein. Il a dit « non, tu ne peux rien faire ».
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui font que.
Arnaud, tu voulais ajouter un mot?
Mais c'est vrai au niveau amateur.
C'est
hein, faut pas.
Mais coupez-lui le micro.
Allez, vas-y,
Non, moi, pour en discuter régulièrement avec les organisateurs, et notamment les organisateurs du Tour de France ou des épreuves en France, bien sûr que si, que le traceur, en l'occurrence Thierry Gouvenou, le traceur des étapes de toutes ces compétitions, il a bien évidemment conscience que les arrivées dangereuses, c'est pas possible. Simplement, par exemple, je me souviens d'une arrivée au sprint sur le Tour de France en 2021, le Tour de France qui était parti de Bretagne. C'était une arrivée à Pontivy. Je ne sais plus qui avait gagné ce jour-là, mais il y avait eu une chute effroyable de Caleb Ewan. Et je me souviens Cyril Guimard qui, à l'antenne, avait souligné à juste titre un espèce de virage en S comme ça à la fin sur les 300 ou 400 derniers mètres. Moi, j'en ai parlé récemment avec Thierry Gouvenou. Il m'a dit, mais c'est parce que cette année-là, 2021, c'était un tour un peu particulier avec c'était encore la pandémie, le Covid, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Moi, si j'avais vu ça, si j'avais vu une ligne d'arrivée comme ça, évidemment que j'aurais dit non, que j'aurais dit c'est niet.
Donc ça veut dire voilà. Il y avait Peter Sagan dans la chute également.
Oui, mais je ne me souviens plus qui gagne. Je ne sais pas, c'est pas.
Mais en fait, c'était une courbe.
Si je me souviens bien.
C'était une courbe à 50 mètres de la ligne. Voilà, c'est tout.
Ouais. Ouais, effectivement.
Bon, enfin, en tout cas, non, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est
d'accord,
pas vrai.
D'accord, ok. Mais bon, dans À travers la Flandre, ils auraient pu peut-être se passer de cette portion de route, évidemment. L'année prochaine,
il y aura. Non, mais il peut y avoir aussi une prise de conscience des coureurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le matériel.
Oui, ouais, non, mais c'est vrai, ils sont une responsabilité à tous les joueurs.
Je veux dire, personne. Enfin, alors, j'allais dire, personne ne les oblige. Si, parce qu'en fait, ils se font hurler dans les oreillettes de surtout aller bien se placer pour être en tête du peloton pour les raisons qu'on exposait tout à l'heure. Il y a aussi la responsabilité des coureurs, il y a aussi la responsabilité de l'UCI, ça on n'en parle pas. Mais moi, je discutais avec un patron d'équipe qui disait on demande à l'UCI de prendre des dispositions, mais sauf que l'UCI ne veut rien faire. Qu'est-ce que c'est le problème avec l'UCI ? L'UCI a mis en place cette espèce de classement avec montée-descente tous les 3 ans qui impose désormais à chaque coureur d'aller disputer la moindre placette d'honneur. Donc, une 8e place, tu vas la sprinter pour la faire, ou en tout cas, tu vas être bien placé, donc tu vas jouer des coudes pour te placer dans le final avec des vélos qui roulent à 60, 70, 80, parfois 90 km/h. Ben c'est normal qu'à un moment. Et c'est ce que disait Valentin Madouas, c'est un mix de tout ça qui fait qu'il y a des chutes.
Et c'est un
Mais tout le monde en est conscient, mais on commence par bouger quoi ? Si vous prenez le classement UCI, on a augmenté le nombre de places où il y avait des points.
Oui, mais c'est bien ce que je viens de dire, Cyril.
Ouais, c'est ce que,
oui, mais problème. Tout à fait. Et pourquoi ? On n'en sait rien.
Bref, on a
Si vous voulez faire un règlement de montée et descente, ben moi j'en ai jamais entendu parler. Hein. Ça sort comme ça du chapeau, vous savez pas d'où ça vient.
On aura l'occasion de réouvrir le débat, mais quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise image du vélo. Et je pense que les parents qui voient les gamelles comme ça à répétition sur les grandes courses et qui hésitent à mettre leurs enfants dans les écoles de cyclisme, ça ne va pas les inciter à le faire plus. Alors, on espère évidemment que l'Enfer du Nord, qui est considéré comme la course la plus effrayante du calendrier, mais pas forcément la plus dangereuse, sera épargnée dimanche prochain. C'est quand même paradoxal de dire que Roubaix est la plus effrayante, mais pas la plus dangereuse, hein, parce que on y va sans doute un peu moins vite du fait des pavés.
Il y a des belles gamelles quand même. Hein.
Il y a des belles gamelles, mais ouais. Alors évidemment, tout le monde se souvient de
l'édition pluvieuse
de Musseau, de Gaumont, qui se sont fait très mal dans Paris-Roubaix. Oui. Ou alors d'un coureur, mais là qui était mort d'une crise cardiaque.
Ah oui, Gollert.
Ouais. Mais les grosses gamelles, j'ai l'impression qu'il y a les gamelles collectives, il y en a moins quoi.
Oui, peut-être aussi parce que souviens-toi l'an passé, bon alors c'était un peu spécial, mais c'est vrai que quand même sur Paris-Roubaix le peloton se disloque très rapidement et l'an passé ils sortent d'un Rambert à 10 hein, donc
c'est ça.
Déjà ça te limite le risque de gamelles.
Ça limite là parce que qu'est-ce qu'on voit sur les chutes, c'est des strikes, c'est-à-dire que quand il y en a un qui touche, si vous regardez les images d'hélicoptère, c'est une ruche.
Ouais, tout le monde, ils sont
les coureurs sont à 5 cm les uns des autres. Le premier qui touche, il emmène tout le monde. Ouais. Dans Paris-Roubaix, vous êtes un parrain. Donc déjà, l'endroit le plus dangereux de Paris-Roubaix, c'est pour arriver au premier passage pavé. Hein.
Ouais, c'est quand tout le monde essaie de se placer.
Compiègne, c'est de Compiègne au premier passage, où là, vous avez les routes très larges, et c'est là où vous pouvez avoir des strikes. Mais une fois que t'es rentré sur les pavés, si tu chutes, là, en règle générale, c'est en grande partie de ta faute. Tu peux emmener un ou deux ou trois coureurs, et puis les autres vont s'arrêter. Mais à partir du moment où vous êtes sur les pavés, les passages pavés, ça se regroupe, ça repart. Vous n'avez plus cette ruche. Et on s'est rendu compte, si vous avez regardé l'équipe le Tour des Flandres des femmes, on a eu les mêmes tas. Hein.
Non, mais c'est pareil chez les
parce
chez
que
chez
le mimétisme est total. Les oreillettes fonctionnent de la même façon et le reste aussi.
Un enfer qui devrait se dérouler sur terrain gras, ce qui n'était pas la norme ces dernières années, mis à part l'année du Covid, où la course s'était roulée en octobre, en 2021. Et ces coureurs transformés en statues de boue qui font la renommée de la course, mais quand on est coureur, c'est quand même pas l'idéal. La reine des classiques, dont le grandissime favori sera donc une nouvelle fois Van der Poel, vainqueur l'année dernière, et qui pourrait devenir dimanche le 12e coureur de l'histoire à réaliser le doublé ronde Roubaix, qui va encore le faire entrer un peu plus, qui pourrait le faire entrer un peu plus dans la légende. Un seul l'a fait à deux reprises. Qui est-il ?
Cancellara.
Vous avez eu le temps de regarder, je vous ai envoyé les textes. Je suis idiot aussi. Je vous pose la question.
On le savait déjà,
mais je ne pose pas la question alors.
Mais vous le saviez, tu t'en
souviens. Je me souvenais qu'il l'avait fait aussi.
C'est vrai. Vous êtes Alain Delon et Jean-Paul Belmondo tous les deux. Tiens.
Pose d'autres questions. Oui, parce que tu me voles sur les quiz qu'on fait dans l'intégral tour l'été. Donc,
comment ça, je te vole on va en faire d'autres cet été.
Je vais avoir mon décalage sur la moto avec 4 secondes de retard et puis après on dit t'as donné ta réponse après. Non.
Encore Faut-il se remettre des efforts de ce Tour des Flandres? On verra si Mathieu Van Der Poel a l'occasion et pourra le faire. Il semblait tué à l'arrivée, on l'a entendu. Combien de jours il faut pour récupérer d'un tel effort, Cyril? Une semaine, ça suffit?
Oui, normalement, une semaine, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de soucis particuliers, en une semaine, normalement, vous devez restaurer l'ensemble des micro-traumatismes de l'organisme, également refaire les niveaux hormonaux. Voilà, donc la récupération sur une semaine, elle existe. D'ailleurs, heureusement, sinon on ne ferait pas le Tour de France. Mais regardez, ouais, vous avez des coureurs qui ont couru mercredi, là où il y a eu malheureusement cette gamelle. Malgré la chute, Pedersen était là et il avait toutes ses jambes. Donc c'est comment gérer cette partie-là qui est en fait une semaine qui va être une semaine de surcompensation pour arriver avec le maximum de jus sur Paris-Roubaix. On fera quelques petits rappels éventuellement d'intensité mais très court, de façon à laisser l'organisme se refaire complètement, se restructurer.
Ouais, c'est vrai que Van Der Poel, entre l'E3 et Ganvevelgem, il n'y a eu que deux jours d'écart. Là, il ne s'était pas tout à fait refait la série, mais là, c'était très proche. Deux jours d'écart, là, il y a une semaine. Donc, il aura le temps de...
Oui,
ouais, est-ce que tu disais...
Et là, c'était de la surcharge volontaire.
Ouais. On verra donc pour ce Paris-Roubaix, la Reine des Classiques qui s'élancera à 11h10 du château de Compiègne pour s'achever 29 secteurs pavés, 260 km plus loin sur le vélodrome de Roubaix. Pour l'occasion, les grandes gueules du sport seront en direct de Compiègne. Ce sera dimanche matin entre 9h30 et midi. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Préparez-vous bien donc pour l'Enfer du Nord, pour la Reine des Classiques. Ce sera dimanche prochain. C'est le sommet pour nous Français de la saison des Classiques, Johan.
Et ne pas oublier aussi le Tour du Pays Basque. Avant-goût du Tour de France, ils sont trois. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel.
Ah, c'est pas mal. Ah, seul Tadej Pogacar n'est pas là. Enfin, ils s'affrontent.
Eh oui.
Enfin, ils s'affrontent. Il manque que Poggi.
On parlait de frustration.
Poggi, il fait quoi là? Il est où là?
Il se repose.
Il se prépare pour le Giro. Eh oui. Exactement. Il a dû regarder le Tour des Flandres en se disant attends mon petit gars, attends de voir l'année prochaine. Je reviendrai. I'll be back. Allez, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao.